Vous écoutez
RMC. RMC, la boîte à souvenirs.
Philippe Saint-André.
Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Saint-André, j'ai 52 ans, je suis un ancien joueur de rugby, capitaine et troisième meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France. J'ai également été sélectionneur des Bleus et ensemble, nous allons ouvrir la boîte à souvenirs.
RMC,
la boîte à souvenirs.
Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro, le dernier numéro de la boîte à souvenirs, votre émission durant les fêtes de Noël avec les membres de la Dream Team de 20h à 21h. Et aujourd'hui, pour clore cette belle aventure, nous sommes avec Philippe Saint-André. Salut Philippe.
Bonsoir JC.
Durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes cicatrices et évidemment ton aventure de sélectionneur avec le 15 de France. Ton boulot est extrêmement simple. Face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer au sort, dessus un mot, une date, un moment que tu vas nous raconter. Est-ce que tu es un petit peu stressé à l'heure de revenir en arrière, de regarder dans le rétroviseur et d'ouvrir ta boîte à souvenirs ?
Non, parce que je suis content, je suis heureux d'être avec toi. Donc après, sûrement, il y aura des choses douloureuses, mais bon, c'est toujours un plaisir aussi. Je suis pas quelqu'un qui vit dans le passé, donc ça va me faire drôle de revenir sur des choses de ma vie.
Le premier papier ouvre ta boîte à souvenirs avec cette première anecdote, ce premier moment dans la carrière de Philippe Saint-André. Vous êtes sur RMC.
3 juillet 1994.
3 juillet 1994. C'est quel hymne ça ?
C'est la Nouvelle-Zélande, non ?
Bien sûr, la tournée en Nouvelle-Zélande.
Oui, la tournée. C'est le premier test.
Exactement. Alors, le premier test des Bleus a été absolument magnifique car vous avez mis 30 points au Black, ce qui n'était jamais arrivé en Nouvelle-Zélande. Et le deuxième test va arriver. C'est un match un peu plus compliqué, mais c'est vrai que cette tournée en Nouvelle-Zélande marque un souvenir absolument incroyable dans ta carrière, parce que c'est une année où, avec Clermont, tu as été brillant jusqu'en finale du championnat de France. Et c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, en 94, les Bleus, ça se passe très bien.
Oui, ouais, ça se passe très bien. À l'époque, les tournées étaient longues. Hein. On partait pas 15 jours. Il y avait des matchs de province. Donc, on partait pendant 6-7 semaines et on part. Et là, c'était chez les All Blacks. Et c'est vrai que ce premier test, le 3 juillet 1994, je crois que les Néo-Zélandais pensaient que ça allait être une formalité et on leur met 30 points. Et il n'y a pas photo sur le match. C'est le premier match de John Alomou aussi. Donc, c'était quelque chose d'important. Et puis, il y a une deuxième test la semaine d'après. Alors, j'ai une histoire qui est un peu étonnante. C'est qu'après cette victoire, donc on fait une troisième mi-temps énorme. À l'époque, voilà, le rugby était amateur. Donc, puis imagine, des mecs Rouma, Merle, Benazi... Des mecs qui faisaient 120 kilos, donc on fait une troisième mi-temps d'un autre monde. On rentre à 6h du matin. Et à 6h30, Pierre Berbizier nous réveille dans la chambre. On a dormi une demi-heure et on était parti pour un footing. Enfin, c'était pas un footing de récupération, c'était un record du monde du 10 000 mètres. Et là, il nous dit, alors là, tu peux voir dans l'état où on était, et il dit, les gars, gagner un test, c'est bien, mais on peut rentrer dans l'histoire du rugby et du rugby français, et il faut gagner ce deuxième test en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai envie de dire qu'il nous a, dès 6h30 du matin, le lendemain, remotivés et reconcentrés sur ce deuxième test.
78e minute de ce deuxième test, les Bleus sont derrière. Toi, t'es le capitaine, tu dis quoi à tes joueurs ?
Ben, je dis surtout que ouais, on était derrière au deuxième test. Ça avait été compliqué, hein, beaucoup d'engagement physique. Et j'avais demandé au mec, parce que j'étais ailier, mais j'étais capitaine, de relancer tous les ballons parce qu'on allait avoir une chance sûrement d'une contre-attaque. Et je crois que 2-3 minutes avant, Jean-Luc Sadourny met un grand shoot en touche. Donc je hurle, je dis c'est pas possible, on s'en fout de perdre de 2, de 4 ou de 10 points, mais il faut tenter quelque chose. Et 2 minutes après, c'est moi qui récupère le ballon. Et sincèrement, j'aurais dû mettre un grand shoot parce que dans le ballon.
Tu as vu la meute arriver.
Ouais, parce qu'il y avait 6-7 Néo-Zélandais, mais bon, le dire fait rire, le faire fait taire. Et donc je me suis dit bon, j'ai engueulé Sadourny, donc je suis obligé, je suis reparti, j'ai tenté de contre-attaquer, j'ai eu la chance de passer un, deux, trois Néo-Zélandais, et puis là après il y a une action, un pur bonheur avec c'est laissé du bout du monde avec un moment exceptionnel où voilà il y a tout, il y a le geste juste, il y a le French flair, il y a la technicité, il y a la qualité des joueurs de cette génération pour cet essai de Jean-Luc Sadourny complètement en fin de match.
Et oui, ça va nous donner donc dans l'histoire l'essai du bout du monde parce que Philippe Saint-André avait dit à ses joueurs on arrête de balancer, on relance, la balle arrive dans tes 20 mètres, la balle ouais. arrive dans les bras de Philippe Saint-André et ça donne ça.
Philippe Saint-André pour une relance. La balle est pour les Français. Voilà, ça repart. Ça repart, il y a le surnombre. Il y a le surnombre, Benassi. La passe pour Tamac. Il y a Philippe Sela là-bas. Il y a Cabane, il y a Delegue, et il y a peut-être un essai au bout, bah oui, c'est l'essai, c'est l'essai de la victoire de Sadourny, et l'équipe de France gagne le match, c'est un
essai
historique.
Et là vous rentrez dans l'histoire.
Ouais, ça me met des frissons d'entendre cela.
Et le commentaire de Pierre Salviac.
Et Pierre Salviac et d'Albaladejo, ouais. En plus, quand il parle de Benazi, Abdel, qui était quelqu'un qui rentrait dans les murs, là, et il passe les bras, il fait une passe vissée de 10-15 mètres. Enfin, il fait quelque chose qu'il n'avait jamais l'habitude de faire. Il y a Cabane, il y a une Chistera, enfin, il y a... C'est un essai exceptionnel. Et puis voilà, on rentre dans l'histoire parce qu'on gagne la série de tests en Nouvelle-Zélande. Ce qui est énorme et ce qui n'a jamais été fait depuis.
Autre papier avec toi, Philippe. Tu peux replonger ta main dans cette boîte à souvenirs.
C'était sa façon de nous dire, voilà, à un moment donné, je suis l'entraîneur et il faut m'écouter.
Autre papier dans la boîte à souvenirs sur RMC avec Philippe Saint-André. Philippe.
À Parc des Princes.
Voilà. Ah, on fait un petit bond, hein.
Voilà, pour moi, c'est exceptionnel.
On est le 22 novembre 1997.
Là, c'est moins exceptionnel. C'est le dernier match contre l'Afrique du Sud, c'est ça ?
Exactement.
On ferme le Parc des Princes.
C'est ton dernier match en équipe de France, ton dernier match au Parc des Princes, le dernier match de l'équipe de France au Parc des Princes. Et vous prenez 52-10. Ça a été un match difficile à préparer pour toi. Tu as senti que c'était ton dernier match ?
Ouais, étonnamment, ouais, on prend la grêle. Alors pourquoi? Parce que cette Afrique du Sud, on les avait joués, on avait gagné la série de tests aussi en 93. On a parlé de 94, mais 93. Et là, on les joue en 97. On les joue à Lyon d'abord, et je les avais. C'était plus les mêmes mecs. C'était des monstres. Alors que trois ans après, ils étaient comme nous. Et à Lyon. On fait un match avec beaucoup de courage. Je ne sais plus, on doit perdre de 3, 4 points, 36, 32, etc. Mais ils nous avaient marché dessus, on avait tout donné, on était mort. Après le premier test, on est mort. Et là, je me souviens, je demande au docteur de l'époque, de l'équipe de France, qui était le docteur de Grenoble, je dis, il faut faire quelque chose parce que je pense que... Il ne tombe pas qu'à l'eau claire. Et donc ce dernier match au Parc des Princes, je suis le capitaine de l'équipe de France, je suis une génération Parc des Princes parce que voilà, j'ai joué tous mes test matchs, tout le 5 nations à l'époque dans ce stade mythique et exceptionnel, et c'est la seule fois où je pleure pendant les hymnes avant le coup d'envoi. Et étonnamment, on en prend 50, ça a été mon dernier match en équipe de France.
Et tu ne le sais pas avant.
Et je ne le sais pas avant.
Mais tu as...
Et je me déchire le quadriceps, je crois, sur 15 centimètres.
On y reviendra, ça, dans quelques instants, à cette blessure. Mais tout d'abord, cette sensation de pleurer pendant les hymnes, cette sensation que ça va être ton dernier match. Je te propose d'écouter un coéquipier à l'époque, Olivier Merle, le premier invité de cette émission, ta boîte à souvenirs. Il se souvient très bien de ce moment parce que c'est aussi son dernier match à lui.
Pour ce match-là, je me souviens très bien. Alors, je sais pas s'il a pleuré pendant les hymnes, mais on s'est retrouvés ensemble. On a formé un cercle sur le terrain juste avant le coup d'envoi. Et oui, j'ai senti l'émotion chez lui et les yeux larmoyants s'adresser à moi. Il avait toujours un mot à dire aux uns et aux autres. Et là, il y a les ruches et tout, puis il n'a pas fini sa phrase et je sentais qu'il était pris par l'émotion, qu'il ne pouvait plus parler, il avait les yeux larmoyants. Et là j'ai compris que on allait vivre un grand moment et qu'il allait certainement se passer un truc à l'issue de ce match et ça n'a pas loupé, quoi.
Ah, tu sais, en plus, Merluchon, hein, c'est l'homme et demi. Il a été en Nouvelle-Zélande. Tout le monde avait dit The Man and Half parce que c'était mon tueur à gages. C'est-à-dire que d'abord, ils ont joué en club aussi ensemble. Un champion de France de lancer du poids, une force de la nature. Et c'est vrai que ce dernier match contre l'Afrique du Sud, et quand je parlais du docteur, on a eu les tests après, et sur les 22, il y avait 20 asthmatiques.
Ça veut tout dire.
Ça veut tout dire. Ils étaient pas plus techniques 2 ans auparavant, mais ils étaient techniques. Et on en prend, voilà, on prend 50 points. Alors étonnamment, l'image est belle parce que je me blesse sur l'action où Raphaël Ibanez marque un des seuls essais du match. Et Raphaël Ibanez devient le capitaine de l'équipe de France sur le tournoi des 6 nations ou 5 nations après. Et ils font le grand chelem au Stade de France.
Et pour boucler la boucle sur ces Sud-Africains, donc qui ne marchaient pas qu'à l'eau claire, tu échanges ton maillot avec James Small, c'est ça, à la fin de la rencontre?
Ouais, tout à fait, avec James Small, qui était...
Il est à peu près taillé comme toi, non?
Voilà, on avait un petit peu... D'abord, le même jeu. On n'était pas, on va dire, des très grands techniciens, mais on était des bulldogs. À chaque fois que je jouais contre lui, c'était rude. On faisait le même gabarit à l'époque. On avait des maillots en L. Et là, je change le maillot au Parc des Princes. Et lui, il est en double XL. Et moi, je suis toujours en L. Et donc là, tu te dis, bon, je pense que le professionnalisme fait qu'en 2 ans, il a bien progressé.
Oui.
Après, père en son âme, le pauvre, là, il est décédé il y a peu de temps d'une crise cardiaque.
Autre papier dans la boîte à souvenirs avec Philippe Saint-André qui se rappelle les bons moments, les moins bons moments évidemment de sa carrière. Philippe,
Pays de Galles.
Pays de Galles. Ah oui, là, on fait un saut de puce dans le temps. Nous sommes en janvier 2004. Tu es revenu en France depuis 1 an et demi. Tu n'es évidemment plus joueur, tu es désormais entraîneur et tu reviens en France comme directeur général de Bourgoin-Jallieu. Mais tu vas te faire virer pour un problème de Pays de Galles. C'est quoi ce problème de Pays de Galles?
disons, comme j'avais entraîné en Angleterre, j'avais entraîné
Gloucester.
Après je vais à Sale, mais là j'avais entraîné Gloucester. Après je pars à Bourgoin-Jallieu avec Laurent Seigne, avec Patrick Sébastien qui était le vice-président, Pierre Martinet qui était le président. Et puis j'ai un coup de fil d'un pote agent qui me dit voilà, le Pays de Galles cherche un sélectionneur, ils m'ont demandé si tu pouvais être intéressé, ton profil les intéresse, etc. Je lui dis, bon, je suis avec Bourgoin-Jallieu, mais bon, si jamais ça les intéresse, pourquoi pas faire un entretien, mais bon, laisse-moi du temps d'aller voir déjà mon président pour lui en parler, etc. Il me dit, oui, mais t'inquiète pas, le processus va durer 3 mois, ne t'inquiète pas. Et je crois le lendemain ou 2 jours après.
Ouais, le processus va pas attendre.
Voilà, on joue en plus mon ancienne équipe à Gloucester. On les joue en Coupe d'Europe, la grande Coupe d'Europe à Pierre Rajan, à Bourgoin-Jallieu. Et en première page de l'équipe, il y a où Philippe Saint-André approché par le Pays de Galles. Et là, Pierre Martinet refuse que je rentre dans les vestiaires et je suis viré sur le champ.
Cette histoire avec le Pays de Galles et évidemment ton licenciement, Pascal Papé, Sébastien Chabal s'en souviennent très bien.
Je me rappelle pourquoi il s'est viré, parce qu'on joue Gloucester et puis il a été plus applaudi que. Enfin, il a été applaudi et pas Pierre Martinet et Piero l'a mal pris. Je crois qu'il s'est viré à cause d'un certain journal qui avait titré en gros titre Philippe Saint-André avec la sélection du Pays de Galles alors qu'il était sous contrat avec le club de Bourgoin. Donc. Ça n'avait pas plu au président Martinet à l'époque. Et je crois que les ennuis avaient commencé pour Philippe à ce moment-là. J'avais une gastro, j'avais la grippe et j'étais chez moi et j'écoutais le match à la radio. Et j'entends ça. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? C'était fou.
Eh oui, c'était fou. C'était Sébastien Chabal qui raconte cette anecdote. Il était malade et il entend ça à la radio. Il entend que son entraîneur va se faire virer.
Eh ben, le traiteur intraitable, hein, Pierre Martinet. Alors après, par contre, à Bourgoin, j'ai vécu des moments exceptionnels. Voilà, Pascal Papé, Sébastien Chabal, mais bon, il y avait une équipe, Olivier Milloux, Julien Bonner. Il y avait quelques années après, la moitié de l'équipe de France, qui était là, et Bourgoin, voilà, une petite ville, et on est resté invaincu pendant 18 mois à domicile, et j'ai vécu des moments exceptionnels avec ces joueurs-là, voilà. Et Sébastien Chabal, ce qui est incroyable, c'est qu'il m'a après suivi en Angleterre, c'est-à-dire que je l'ai entraîné pendant 7 ans d'affilée. Pascal Papé, après, a été à un moment donné capitaine de l'équipe de France sous mes ordres. Et voilà, c'était, comme on dit, la berge à lit, mais c'est des vrais mecs, c'est des vrais joueurs de rugby. Par contre, pour revenir, l'entretien avec le Pays de Galles, je ne l'ai jamais eu. Hein.
Ah oui,
parce que j'ai été viré. Par le traiteur intraitable, Pierre Martinet, mais je suis même jamais allé faire l'interview avec le Pays de Galles.
Oui, parce que j'ai regardé ton CV et je vois pas du tout sélectionneur du Pays de Galles, mais en tout cas, dès le lendemain, t'avais déjà retrouvé un poste, c'est dire ta cote là-bas, évidemment. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la boîte à souvenirs avec Philippe Saint-André. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-21h,
la boîte à souvenirs.
De retour dans la boîte à souvenirs avec Philippe Saint-André. Philippe, tu peux piocher un nouveau papier dans ta boîte à souvenirs.
Philippe n'y va pas.
C'est quoi ça, Philippe?
C'est ma femme. quand il y a l'équipe de France qui me contacte, disons que dans le processus à l'époque, Guy Novès était le numéro 1, moi j'étais le numéro 2 et Fabien Galthié était le numéro 3.
On est en août 2011.
On est en août 2011.
Guy Novès n'y va pas, voilà, refuse la sélection.
Pour des choix et des problèmes familiaux, je crois. Et c'est Jean Duniac à l'époque qui était mandaté par la Fédération française de rugby et qui m'appelle. Voilà.
Pourquoi ta femme te demande de ne pas y aller ?
Ben, pourtant elle ne connaît pas le rugby. Hein. Elle est vénézuélienne, passeport anglais. C'est la femme en plus, ma femme et la maman de mes deux enfants. Mais elle me dit, voilà, t'es en train de faire à Toulon ce que t'as fait à Celle, t'es en train de construire, maintenant vous allez, c'est le moment où vous allez gagner. Et elle me dit, non, je pense que c'est pas le moment de partir en équipe de France. Mais bon, moi, ça a été toujours ma philosophie. J'ai dit que grâce au rugby et grâce à l'équipe de France, j'ai vécu des choses exceptionnelles. J'ai voyagé, j'ai connu le monde, j'ai découvert des personnes incroyables. Je me suis développé en tant qu'homme. Et que si un jour l'équipe de France m'appelait, je ne pourrais pas refuser. Parce que j'ai été joueur, parce que j'ai été capitaine, et que je ne me voyais pas dire non, même si je savais que c'était une période qui était compliquée.
Donc tu y vas, avant de revenir sur l'équipe de France, juste dire qu'à ce moment-là, tu entraînes évidemment le RCT, Toulon, et ce n'est pas facile avec Mourad Boudjelal de partir de Toulon et de
se
libérer.
Non, tout à fait, c'était loin d'être évident. Mais sur Philippe n'y va pas, il y a ma femme... Et un bon ami à moi qui me dit non. Mais bon, tu sais, dans ces moments-là, en plus, en tant qu'entraîneur, ça avait toujours bien fonctionné. Gloucester, Bourgoin, Sale, même Toulon, un club qui était en difficulté. La première année, on finit, perd en demi-finale, on fait finale de conférence européenne. La deuxième année, on se qualifie pour les quarts de finale de Coupe d'Europe, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du RC Toulon. Et tu te crois toujours plus fort, tu te dis, mais bon... Je sais que l'équipe de France est compliquée, mais je vais y arriver. Tu te crois toujours plus fort que les autres, et puis tu t'aperçois que c'est loin d'être facile.
Août 2011, première conférence de presse de Philippe Saint-André, sélectionneur donc, il y va, de l'équipe de France.
Beaucoup d'honneur d'être le 9e sélectionneur et manager de l'équipe de France. Après, je sais aussi l'énorme responsabilité. Et puis on sait au combien l'équipe de France c'est important dans le cœur des Français.
Alors tu sais l'énorme responsabilité, mais est-ce que tu pressens l'énorme galère aussi ?
Disons que je en plus en ayant entraîné en Angleterre et en connaissant le fonctionnement anglais et la disponibilité des internationaux, j'espérais. Pouvoir trouver une solution à l'époque avec la fédération, avec la ligue, et puis ça a été pendant 4 ans une guerre de tranchées. La fédé, la ligue ne se parlaient pratiquement pas, et ça a été très compliqué. Et puis pareil, à un moment donné, au bout de 2 ans où normalement on devait améliorer la convention, et ça n'a pas été le cas. Sûrement j'aurais dû taper sur la table ou partir, mais bon, je suis pas le genre, quand je pars sur le bateau, voilà, j'ai pas envie de sauter et de laisser et de laisser, donc voilà, je suis quand même un vrai compétiteur.
On reparlera de l'équipe de France un peu plus tard, mais je voudrais m'arrêter sur ton image, parce que tu resteras, pour l'instant en tout cas, le premier sélectionneur français à cette époque à passer sous la barre des 50% de victoires. C'est dur à gérer ça. Tu en gardes une vraie douleur du traitement médiatique que tu as pu avoir.
De toute façon, quand t'es sélectionneur, t'es la tête de gondole. Quand ça fonctionne, c'est super. Quand ça fonctionne pas, t'es le premier à trinquer. Et puis en plus, c'est vrai, comme tu le dis, je suis le premier à descendre en dessous des 50%. Alors après, quand tu étudies l'évolution du rugby français depuis Jean-Claude Scrella, qui était mon entraîneur dans les années 97, et ben le pourcentage descend. Scrella, Laporte, Marc Lièvremont, moi je suis le premier à descendre en dessous des 50%, donc c'est, les gens ne comprennent pas, et automatiquement le premier qui se fait assassiner, c'est l'entraîneur. Alors étonnamment, après Guinoves, qui est quelqu'un d'énorme, très compétent, est passé après moi et le pourcentage est descendu, et après Jacques Brunel est passé après et le pourcentage est descendu. Donc tu t'aperçois qu'il y a aussi des gros problèmes structurels dans le rugby français qui sont en train d'évoluer. Je pense que là on va remonter la pente, et c'est très bien pour le rugby français
d'être si exposé. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que ta femme ne voulait pas que tu y ailles. Aller devant les médias, c'était une souffrance pour toi ou pas?
Je suis pas un très bon acteur, et quand tu perds, voilà, j'ai du mal à avoir la banane, à sourire, à être positif et à dire, et donc quand tu enchaînes les défaites, ben j'étais pas bon, parce que voilà, j'étais sûrement triste, pas un bon client. Et puis après, quand tu as une image qui te colle à la peau, même si tu veux t'en sortir, et ben c'est compliqué. Alors que voilà, les gens qui me connaissent, les gens que j'ai entraînés, je suis quelqu'un de positif, qui a la banane, qui rigole tout le temps. Mais c'est vrai que après les défaites, j'ai du mal à l'accepter, parce que quand tu es compétiteur, tu as envie de gagner en tant que joueur comme en tant qu'entraîneur, et que là-dessus, j'ai pas été un bon client.
Pas un bon client pour les médias, ton image qui colle à la peau. Tu te souviens de cette mi-temps de France-Roumanie en 2015, premier tour de la Coupe du Monde?
Ouais, je me souviens.
Ouais, ça a bardé dans le vestiaire. Causerie qui restera mémorable, on est à la mi-temps et l'équipe de France va très mal face à la Roumanie.
C'est le deuxième match de la Coupe du Monde. Le premier, on le gagne assez facilement contre l'Italie. Et il y a l'enchaînement des matchs. Et on sait la complexité d'enchaîner des matchs en Coupe du Monde. Et donc là, je change 13 joueurs. Mais c'était prévu en amont. Et donc, les 13 mecs, ils sont frais. Et au lieu de trouver des solutions collectives en première mi-temps, voilà, on joue individuellement. Et le contenu est pas bon. Alors après, en deuxième mi-temps, les mecs sont envoyés et je sais pas, on doit finir à 30 ou 40 points avec une deuxième mi-temps de meilleure qualité.
Pascal Papé, Sébastien Chabal se souviennent de tes causeries. Écoute-les.
Les gueulantes de Philippe, on en a eu quelques-unes. J'en ai eu même moi pas mal à Bourgoin, notamment quand, vu que j'étais, on va dire, très sanguin, jeune, je prenais régulièrement des cartons, et effectivement, moi j'avais le droit à ma gueulante, qui était toujours une gueulante très aiguë de la part de Philippe Saint-André, hein, qui a une voix un petit peu particulière aussi quand il est énervé. Donc moi, ça m'a marqué parce que voilà, il faut aussi savoir rester concentré.
Il y a un truc, c'est que c'est quand il s'exprime, des fois, il a la voix qui tressaille un peu et du coup, ça peut paraître un peu pas très sérieux ou pas sûr de lui, alors que c'est quelqu'un qui est hyper sérieux, qui est très sûr de lui et qui sait ce qu'il fait, et qui est un très bon manager, un excellent technicien.
Alors toi, tu as une carapace tout de même en tant que sélectionneur de l'équipe de France dans cette période où c'est assez compliqué pour toi, où tu es critiqué. Pour tes proches, c'est comment?
Ce qui est étonnant, j'ai envie de dire, c'est le plus dur quand tu es... Quand tu es critiqué, c'est pas pour toi, parce que tu es dans ton élément, tu essayes de trouver des solutions, tu ne lis pas automatiquement tout ce qui se dit sur toi, ou tu n'écoutes pas toutes les radios. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour ta famille proche et tes vrais amis. Et moi, je sais que voilà, ma famille, mon frère en a pâti, et j'ai des copains qui se sont battus dans... Il y en a un, il s'est battu dans un bar à cause de moi. Je lui ai dit, attends, tu dis que tu me connais pas, et puis point final, parce que ça sert à rien de... Ils me connaissent, ils savent la personne que je suis, et c'est ça le plus important.
Raphaël, ton frère, se souvient très bien de cette période. Je te propose de l'écouter.
Moi, j'étais blindé parce que j'étais entraîneur en top 14 à l'époque, donc je sais ce que c'est, je connais un petit peu les aléas de la vie d'entraîneur, et j'avais vite compris que le fait d'être manager du 15 de France, enfin entraîneur du 15 de France, ça allait être exacerbé. Par contre, c'est plus difficile pour la famille qui est moins préparée. Notre papa était encore en vie à l'époque, donc il a été très fier de voir son fils être sélectionneur du 15 de France. C'était un rêve de gamin de Philippe. Et c'est sûr que pour la famille autour, ça a été plus dur. C'était plus dur pour son fils à lui, pour notre père, pour notre mère. Moi, personnellement, j'étais assez blindé, même si je me suis quand même énervé deux, trois fois dans les stades ou dans les bars si je regardais un match de l'équipe de France que mon frère entraînait, parce que les gens sont souvent bêtes et méchants.
C'est ça qui t'a fait souffrir, c'est de voir tes proches un petit peu en pâtir.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux choses. Il y a une chose, c'est voilà, mon papa qui est décédé, qui était un fou de sport et un fou de rugby. Et c'est sûr que lui, en plus, qu'il était à l'époque malade, ça a été, il l'a très très mal vécu. Et puis, il y a ce quart de finale au Pays de Galles où on perd contre la Nouvelle-Zélande, où on prend une raclée incroyable. Et là, il y avait ma femme et mes enfants, et ma fille et mon fils dans le stade. Et c'est sûr que, voilà, quand à un moment donné, tu fais l'interview de fin de match et que tu te fais siffler, et il y a 25 000 personnes qui sifflent. Un petit qui a 11-12 ans, c'est difficile pour lui de comprendre pourquoi on siffle son papa. J'avais tué personne. Et donc, ça a été un moment là-dessus délicat où il a fallu essayer voilà, d'expliquer rapidement. Et puis après j'ai assumé la défaite, j'ai assumé avec les médias le lendemain par rapport à ma responsabilité. Et puis 48 heures après, on est parti un petit peu voilà à l'étranger pour pas rentrer dans cette machine à laver. Mais bon, après, de toute façon, j'ai envie de dire, si tu ne veux pas être critiqué, tu fais pas ce métier là et j'ai des potes voilà qui se sont battus dans des bars ou dans des soirées.
Et tu parlais de ton fils, ça n'empêche pas et ça n'a jamais empêché Jules d'être fier de son papa. D'ailleurs, Jules a un petit message pour toi, Philippe.
Ah ouais?
Salut papa, c'est Jules. Je voulais juste te dire que tu as toujours été un modèle pour moi et tu le seras toujours. Je suis fier d'être ton fils chaque jour. Tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu m'as apporté. Merci beaucoup papa, je t'aime.
Tu veux me faire prendre une larme. Ah, c'est bien. C'est... Ben, ce que je dis souvent, c'est que... C'est dur d'être entraîneur, d'être sélectionneur, d'être un manager, mais le plus difficile, c'est d'être un père de famille. Et donc, si déjà tu arrives à donner une bonne éducation à tes enfants, c'est déjà quelque chose d'important pour la suite et même pour notre société.
La boîte à souvenirs continue avec Philippe Saint-André. Un prochain papier.
Kings Park.
Nous sommes le 17 juin 1995, demi-finale de Coupe du Monde à Durban, face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui remportera le tournoi. Vous l'avez compris donc, les Bleus vont s'incliner en demi-finale. Et on a tous en mémoire Abdelatif Benazi qui est à quelques centimètres de la ligne. On joue les dernières secondes. S'il marque l'essai, c'est bon. Sinon, c'est fichu.
Et ce jour-là, Saint-André me barre la route, un partenaire, et je tombe comme une masse sur place, alors que le sol était hyper glissant et je pouvais faire au moins 2 mètres en glissant. Mais ce jour-là, je tombe net. J'ai encore la ligne entre les yeux et le ballon dessus.
C'est à cause de toi qu'Abdelatif Benazi n'a pas réussi à marquer cet essai?
Après, on va avoir l'impression que je suis poissard, non, pas du tout. Non, c'est bon, les conditions climatiques sont compliquées et il y a un jeu au pied et je vais au duel, je tape le ballon et je récupère le ballon Et donc, je fais une tapette en arrière et Abdel récupère le ballon, mais sur le duel aérien, je tombe au sol. Et c'est vrai que sur l'appui d'après, c'est moi qui le fais tomber. Alors après, est-ce qu'il allait sur la ligne, avant la ligne, après la ligne, on ne le saura jamais. Mais bon, je pense qu'on avait, on avait les moyens de gagner le match.
Il y a un goût étrange sur cette rencontre, sur cette demi-finale de Coupe du Monde, parce que évidemment c'est en Afrique du Sud. Évidemment, l'Afrique du Sud, c'est pas mal qu'elle gagne cette Afrique du Sud pour la première fois dans un mondial. Vous avez le sentiment de, il y a quelque chose qui tourne pas rond autour de cette rencontre.
Alors. Ce qu'il faut expliquer, c'est que les conditions climatiques sont terribles. Il pleut et c'est juste la troisième Coupe du Monde. Hein. 87, 91, 87 en Australie-Nouvelle-Zélande, 91 en France-Angleterre et là en Afrique du Sud. Et François Pinard, qui était le capitaine de l'Afrique du Sud, moi le capitaine de l'équipe de France. Et l'arbitre, et deux fois, on doit rentrer sur le terrain, et l'arbitre dit non, c'est pas possible à cause des conditions climatiques. Pour les gens, il y a eu des images de partout, ils appellent des gens de partout, et il y a des dames qui balayent le terrain pour enlever l'eau sur le terrain. Et là, à un moment donné, on sait que si jamais le match n'a pas lieu, ils n'ont pas prévu une autre solution. Le lendemain, il y a Nouvelle-Zélande-Angleterre. Et que c'est l'équipe de France qui va en finale de la Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce que les Sud-Africains ont pris un carton rouge en match de poule, je crois, si mes souvenirs sont bons, contre les Samoa. Donc, si jamais le match n'a pas lieu à cause de ces conditions climatiques, on va directement en finale. Et donc,
et le match ne doit pas se jouer normalement.
Oui, mais après, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, on était tellement sûrs de nos forces, on avait tellement envie de jouer ce match, on n'avait pas envie de gagner sur tapis vert. Donc, on était prêt à jouer aussi. Et donc, l'arbitre décide de faire ce match. Alors après, par contre, voilà, il y a eu des décisions compliquées, une fin de match où on les enfonce, ils écroulent 4-5 fois la mêlée. Il n'y a jamais essayé de pénalité. Il y a leur troisième ligne, le pauvre qui est décédé, qui, avant de mourir, qui écrit un livre en disant qu'il n'a jamais aplati, alors que l'essai a été accepté. Mais bon, on va pas refaire le monde. Ils ont gagné, ils ont été champions du monde, et ça a été une période exceptionnelle, après l'apartheid pour ce pays. On se souvient de Nelson Mandela qui portait le maillot de François Pinard, et le maillot sud-africain à l'époque était plutôt un maillot de joueur blanc. Et donc voilà, au niveau du symbole, c'était énorme, mais quand tu es joueur, acteur, capitaine, adversaire, automatiquement, ça a été compliqué. La pilule a été dure à avaler.
Dans ce stade de King's Park, avec cet arbitre gallois, Bivan,
ouais. C'est Mark, ça Mark Bivan, qui, ouais. En plus, ils lui ont offert une belle montre. à la fin de la finale, il y avait une grosse réception, et le cadeau du président de la Fédé à l'époque, il offre une montre, et il offre étonnamment la montre à l'arbitre de la demi-finale. Sur ce beau geste technique du président, les Néo-Zélandais sont partis de la salle.
Voilà. Ouais. Exactement, et vous aussi vous aviez un petit peu les boules. Voilà pour ce papier King's Park. La boîte à souvenirs continue avec Philippe Saint-André sur RMC.
Gormans.
Gormans, c'est quoi ça Gormans?
Bon alors, disons qu'on va dire que mon surnom était le Goré. Voilà. Alors pourquoi? C'était à l'époque où je jouais au tennis, où on faisait la fête avec des amis, un mec, et on faisait la fête devant les jeux de 20h. Et donc je dis à un pote, au maître Capello, ferme ton clapet. Et à ce moment-là, ce maître Capello met une pièce dans le nourrin et il me dit, et toi le Goré. Donc voilà d'où vient mon surnom. Et les premiers matchs que j'ai joué à Romans, ils sont venus avec des pancartes, des drapeaux, allez le Goré, etc. Et donc c'est vrai qu'après, en tant que trois carrels, je ressemblais plus à un petit cochon qu'à une antilope. Parce que voilà, j'étais un ailier atypique. À l'époque, j'étais un gros ailier, je faisais 92 kilos. Et donc, ce surnom m'a suivi toute ma carrière de joueur.
Moi, je pensais qu'il y avait une histoire d'entrecôte là-dessous, mais pas du tout.
Ouais, non, ou d'une énorme saloperie en troisième mi-temps, mais non, pas du tout. Et après, à Clermont-Ferrand, voilà, comme le rugby à l'époque était amateur, hein, j'étais capitaine de l'équipe de France, j'étais joueur de l'ASM, mais on avait tous des jobs, donc je travaillais, je m'occupais, j'avais une boîte de, je m'occupais des sponsors de Clermont-Ferrand. Et j'avais ouvert un bar atypique et je l'avais appelé le Gormans parce qu'avec moi, il y avait des associés qui étaient tous des joueurs de rugby, dont Gilles Darlet, mon frère, Olivier Ricoux, Christophe Juillet. Et donc, on avait mis Gormans, c'est-à-dire les hommes du Gorée. Et alors, le logo, c'était des cochons, etc. Et puis, ça a été un moment exceptionnel dans cette ville de Clermont-Ferrand.
Et ça a été un tabac incroyable dans cette ville de Clermont-Ferrand, car vous avez littéralement relancé les fêtes à Clermont. On connaît Philippe Saint-André, le joueur, le sélectionneur, l'entraîneur, mais pas du tout l'homme d'affaires, le businessman qui a fait quelque chose d'incroyable. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ce restaurant et qu'est-ce que vous faisiez là-bas. Est-ce que c'est vrai que vous avez créé Halloween en France ? C'est vrai ou pas ?
Alors, ce qui est incroyable, alors pourquoi ? Parce que ça revient aussi grâce au rugby et à cette appartenance de l'équipe de France. C'est pour ça que je ne pouvais pas refuser quand on m'a proposé d'être un sélectionneur. C'est-à-dire qu'à l'époque, déjà en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, il y avait des grands bars de sport à 800 000 mètres carrés, etc., avec de la musique, des écrans géants, etc. Et Clermont, qui était une ville étudiante, mais à l'époque, il y avait peu d'endroits. Et donc, j'étais allé voir à l'époque le maire de la ville qui s'appelait Monsieur Quillot, qui avait été ministre, et j'ai dit, voilà, vous n'avez pas un endroit, un local, parce qu'on va monter quelque chose pour les étudiants. Ils avaient un supermarché qui allait centre-ville, qui fermait, il y avait un projet 3-4 ans après. Et donc, voilà, il m'a laissé... on a payé bien sûr, mais il m'a laissé les clés du camion et on a monté un truc atypique, voilà, 1000 mètres carrés, un bar de 25 mètres de long, un bar à tequila, un bar à punch, et du mercredi au dimanche, on faisait 1000 personnes, de 9h du soir à 2h du matin, les tables c'est des tourées EDF, des tourées... en bois, les chaises, c'était que de la récup.
Et mais c'est révolutionnaire parce qu'on est au début des années 90.
Et voilà, c'était révolutionnaire et on avait lancé l'Halloween. Je me souviens, il y avait eu même un sujet sur TF1 où les gens qui n'étaient pas déguisés n'avaient pas le droit de rentrer. Bon, ils étaient obligés d'embrasser une tête de cochon à l'entrée, bon, parce que ça s'appelait le Gormans. Et ce qui est étonnant, c'est que donc. J'ai vécu 9 ans à Clermont-Ferrand et j'ai passé 9 ans exceptionnels en tant que joueur, mais dans le monde entier, dans des aéroports, les gens m'arrêtent. Et c'est pas pour le fait d'être joueur ou d'avoir été entraîneur, mais ils me disent merci.
La boîte à souvenirs, c'est terminé avec toi, Philippe Saint-André, mais reste à mes côtés car dans quelques instants sur RMC, nous allons sortir de la boîte. À tout de suite.
RMC, la boîte à souvenirs.
La sortie de boîte.
Avec Philippe Saint-André sur RMC dans la boîte à souvenirs où nous sommes sortis de boîte. Ça veut donc dire que tu vas devoir répondre à des questions de proches. On débute avec ton frère Raphaël qui a quelque chose à te demander.
J'ai une question à lui poser. Est-ce que tu vas réentraîner ? Parce que même moi je ne sais pas, j'ai du mal à connaître son sentiment.
On répond quoi au frangin ?
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
C'est tout, j'ai rien de plus là ?
Non,
pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Il y a des chances. Voilà.
Voilà, autre question maintenant de Sébastien Chabal.
Vu que tu es romanais, mais que tu t'es forgé en Auvergne, est-ce que les romanais sont aussi près de leur sou que les Auvergnats ? Et est-ce qu'ils aiment autant l'oseille ?
En plus, c'est un mec de Valence qui me dit ça. Non, je crois que les Auvergnats sont quand même sont bien plus forts.
Autre question maintenant, Denis Charvet.
Ah, mon petit Philippe, je me permets de, avec cette question, je fais mon mea culpa. Mon mea culpa, c'est-à-dire que c'est vrai que j'étais bien massacré pendant la Coupe du Monde 2015, mais c'était toujours avec sympathie, avec bienveillance, et comme on dit, et qui aime bien, châtie bien. Hein. Est-ce que tu m'en veux encore ?
Mais non, il le sait, Denis. Voilà, j'ai eu la chance de jouer, la chance, parce que c'était un grand joueur, de jouer avec lui, avec l'équipe de France, avec les Barbarians. Alors après, c'est vrai qu'il a été une des personnes qui était virulente pendant mon mandat. Mais bon, après, sincèrement, si je parle à aucune personne qui m'ont critiqué durant mon mandat, je ne parlerai plus à beaucoup de personnes dans le milieu du rugby. Non, donc Denis, et puis en plus on passe des moments tellement exceptionnels à l'antenne avec sur les antennes d'RMC.
Que tout va bien. Laurent Depré, journaliste RMC, spécialiste rugby, a une petite question pour toi.
Salut Philippe, salut mon coach. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 1er avril 1995 ? Je te donne quelques pistes. Il semblerait que tu aies dit à un confrère de Radio France Puy-de-Dôme, on va le citer, hein, Jean-Pierre Morel, que tu quittais le rugby à 15 parce que tu avais fait le tour et que tu avais envie de découvrir le rugby à 13 qui lui était professionnel. Ça t'a valu quelques petits ennuis, notamment le téléphone qui a un peu chauffé. Faut que tu nous en parles quand même.
Ouais, souvent j'ai... Parce que j'aime aussi rire, j'aime les conneries. Donc j'avais joué le jeu avec mon pote le journaliste. Et donc on avait annoncé que je partais au rugby à 13. Et c'est vrai que ça avait après... les gens ne s'étaient pas rendus compte que c'était le 1er avril. Des coups de fil de mon président, de mes entraîneurs, de l'équipe de France, des médias. Ouais, mais ça avait très très bien fonctionné. Et puis on avait énormément rigolé. Même si j'ai eu après une journée compliquée au téléphone.
Ouais. Et après, t'as arrêté les 1er avril, les vannes
Ouais, on m'en fait plus que... disons que je pense qu'elle était bien touchy, mais elle avait fait... ça avait fait son effet.
Allez, autre question d'un de tes anciens protégés, Pierre Mignoni, à Toulon. On n'a pas beaucoup parlé de Toulon, il a une question pour toi.
Oui, écoute, Philippe, si j'ai une question à te poser, c'est... Est-ce que tu as passé des bons moments à Toulon, comme nous on a passé en tant que joueur?
Oui, bien sûr. Je me suis régalé dans cette ville qui vibre le rugby avec des joueurs comme Pierre Mignoni, Laurent Emmanuelé, Sébastien Bruno, mais bon, Johnny Wilkinson, etc. Après, avec un président atypique, Mourad Boudjela, mais qui est d'une intelligence rare, et j'ai passé 2 ans et demi à Toulon où je me suis régalé dans mon métier à construire, parce que c'était un club qu'il fallait construire, et je me régale tellement que ça fait 10 ans qu'avec ma famille on habite juste à côté.
Autre question maintenant, un peu plus personnelle, ça sent la question patate chaude, c'est un copain, un frère d'armes, Gilles Darlet.
Bon, mon bouillable, je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je voulais juste te demander si tu avais eu des nouvelles de Cerise. Voilà, j'espère que tu en as eu et que tu pourras m'en donner. Je t'embrasse.
De Cerise ?
Oui, c'est quoi cette histoire ?
Ah, c'est une vraie histoire de troisième mi-temps.
On ne peut pas y aller, c'est ça ?
Là, c'est compliqué. Comment ? C'était il y a tellement d'années.
Allez, une dernière chose avec Olivier Merle qui a quelque chose à te demander.
Le tic ou le toc, je ne sais pas, qu'il a à chaque fois qu'il fait une bonne action, de se remettre en place le service trois pièces. Et croyez-moi qu'il l'a fait un paquet de fois. Donc ça veut dire qu'il a été un très bon joueur. Et je ne sais pas d'où vient ce réflexe, mais c'était quelque chose qui le caractérisait, qui nous faisait bien marrer tous. Voilà.
Ben, disons que j'avais pas un slip approprié, et puis quand t'as une côte de bœuf de 2,5 kg, voilà, c'est compliqué quand tu cours.
Je pense qu'on peut arrêter les questions là-dessus avec toi, mon Philippe. Alors, quand on sort de la boîte, tu le sais, Philippe, il peut y avoir quelques dégâts, quelques problèmes. Nous allons maintenant passer à l'interrogatoire avec Philippe Saint-André. Le plus grand regret de ta carrière ?
Ben, c'est cette défaite en demi-finale contre l'Afrique du Sud en 1995 en Coupe du Monde.
Le joueur le plus doué avec qui tu es joué ?
Philippe Sella, il n'y a pas photo.
Le joueur le plus barjot avec qui tu es joué ?
Langlade, Lustucru, on l'appelait.
Pourquoi Barjot ?
parce qu'il était complètement
siphonné.
Siphonné. Je me souviens le jour de Noël, il était rentré, on avait sur le terrain, on croyait que c'était un sapin de Noël. Il avait des guirlandes de partout. Mais un mec exceptionnel et une histoire de fou en plus, parce qu'on a joué en équipe de France ensemble au centre pour la première sélection contre la Roumanie. Lustu Cru qui était plus un arrière, moi plus un ailier. Et il y a une chandelle à l'époque de l'Escarboura et j'étais un peu plus rapide que l'Anglade et le jeu au pied un peu trop long et donc moi je m'arrête à 5 mètres de l'arrière mais je me dis l'arrière, c'était un arrière roumain, t'as intérêt de rester guindé. Et l'Anglade qui était à 9-10 mètres, une seconde après, bouf, il me lance, plâtré, après il me revient, il me dit je crois que je me suis fait de l'acromio dessus. Mais bon, voilà le genre de mec qui était Jean-Claude Langlade, que j'embrasse, qui a fini troisième ligne. Il a commencé arrière, il a fini troisième ligne.
Le club que tu rêverais d'entraîner?
Montpellier. Comme c'est d'actualité.
Ok. Et le prochain club que tu vas entraîner?
Paris-Neuilly, rugby. Le président est Christophe Renaud et il fait des fois les GG, les grandes gueules. Et je lui ai promis que j'allais entraîner son club un soir au mois de janvier.
Voilà, un soir au mois de janvier. Donc ça laisse évidemment la porte à d'autres clubs. Ensuite, ta plus grosse cuite, c'était quand?
En Afrique du Sud, après la victoire contre les Anglais pour la troisième place de la Coupe du Monde à Pretoria, on s'était retrouvés les Anglais, les Français, les journalistes. Je crois que ça a été élu la plus grosse troisième mi-temps de l'histoire du rugby français. Ça a été énorme.
Énorme, énorme, et j'imagine énorme. Que ça devait être assez incroyable. La dernière fois que tu as pleuré, Philippe?
Vraiment, lors du décès de mon papa.
Merci beaucoup, Philippe. Merci d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir d'être avec toi dans cette boîte à souvenirs.
Ouais, merci beaucoup. Et c'était un grand, grand plaisir. Et voilà. Puis je souhaite une très belle année à tous nos auditeurs.
C'est pas encore terminé, mon Philippe, parce que c'est la fin de la boîte à souvenirs. Tu as terminé cette session, cette aventure de la boîte à souvenirs sur RMC. Moi aussi, je m'associe à toi pour vous souhaiter une très belle année 2020. Chers auditeurs, merci énormément de votre fidélité. Un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission, sur ces émissions. Pierre Amiche, un travail fou, notre producteur. Suzanne Folli également à la réalisation. Nicolas Pelletier, notre journaliste, également mention spéciale à Arthur Perrault. Tu as débuté cette émission. Je vais te proposer de clore cette émission avec nos auditeurs, de leur dire tes impressions peut-être après cette dernière de la boîte à souvenirs.
Bon, ben d'abord, je vous souhaite une très belle année 2020. Bien sûr, beaucoup de santé, beaucoup d'amour et puis qu'on soit attentif aux personnes qui sont autour de nous. J'ai envie de dire que dans la vie, si on veut recevoir, il faut beaucoup donner. Donc je vous embrasse énormément et puis je remercie RMC et tous leurs journalistes parce qu'il y a une sacrée équipe et c'est des vraies personnes et puis c'est des filles et des mecs bien. Donc je vous embrasse et puis régalez-vous en écoutant RMC.
RMC, la boîte à souvenirs.